Donc, le message aujourd'hui concerne l'amour, agapé, ok? C'est ça. Mais pour arriver là, dans Romains chapitre 12, Paul parle sur la base de tout son livre, il parle de l'Évangile, et il insiste sur la nécessité de croire en Jésus-Christ. Donc, chapitre 12 à 16 n'a aucun intérêt si on ne croit pas en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ pour être chrétien, un véritable chrétien né de nouveau. Et à partir de cette nouvelle naissance, dont on a parlé de ça tout à l'heure, il y a quatre bases pour que la vie chrétienne réussisse. Donc, ça ne fait pas partie du message. Je vous explique le panneau rapidement. Donc, première chose, c'est la consécration. C'est Romains chapitre 12, verset 1. Après, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Et c'est le renouvellement de notre intelligence. Donc, l'Esprit de Dieu agit à travers la parole de Dieu pour changer nos pensées, pour qu'on ait des pensées chrétiennes et pas des pensées mondaines. Après, donc, c'est l'Église. Jésus a dit, je vais bâtir mon Église. Il n'a pas dit, je suis en train de bâtir mon Église. Il a dit, je vais le faire. Il commence le jour de la Pentecôte, quand il a envoyé le Saint-Esprit pour vivre dans tous les croyants. Donc, il y a cette relation. On a déjà prêché sur ce sujet, donc on ne va pas revenir dessus. Mais c'est le troisième point. Les chrétiens ont besoin des uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Bah, si je suis tout seul, comment faire ça? Il faut être ensemble. C'est l'église locale. Et quand on est frère et soeur, bah, il faut agir dans ce domaine-là, l'amour. OK? Il y a un mot là. Donc ici, j'ai le mot sérieux. OK? Ça peut être aussi l'enthousiasme. OK? Donc, dans la prédication, je vais utiliser le mot enthousiasme au lieu de sérieux, mais c'est le même mot en fait. Ça va tout le monde? OK. C'est le 26e message dans l'Épître aux Romains. Et on est en chapitre 12. Aujourd'hui, c'est les versets 9 à 13. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ces chapitres Romains, chapitres 12 à 16, s'adressent aux croyants en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru au message de la grâce de Dieu, donc ceux-là ont reçu l'Esprit promis par le Seigneur Jésus et annoncé par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Au moment qu'un pécheur croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend résidence dans le croyant, et cela pour l'éternité. C'est lui qui opère la nouvelle naissance, qui transmet la vie éternelle. Désormais, le Saint-Esprit marque cette personne comme appartenant à Dieu, quoi qu'il arrive. De manière active, le Saint-Esprit agit dans cette personne, cette nouvelle création, pour la rendre utile à l'œuvre de Dieu. Il est la source et la puissance pour la vie et le service chrétien. Il nous enseigne par la parole de Dieu, il nous équipe, nous fortifie, puis il produit en nous de ses fruits, les fruits du Saint-Esprit, et il nous utilise dans l'évangélisation. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces beaux mots que nous lisons dans la parole de Dieu. Il désire produire en nous une vie chrétienne réussie. Dieu est tout amen. Oui, amen. Il n'œuvre pas à nous pour nous détruire, c'est pour nous faire réussir. Donc, comme nous l'avons déjà dit, il y a quatre fondements, et je veux dire nécessaires, pour une vie chrétienne réussie. Romains chapitre 12, verset 1, la consécration à Dieu. Romains chapitre 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Romains chapitre 12, versets 3 à 8, on a la participation de chaque croyant à la vie de l'Église locale. Mais pas n'importe comment. C'est selon les talents et les dons que Dieu a confiés à chacun. Il n'a pas donné les mêmes dons et les mêmes talents
à toute personne. On a tous nos dons et nos talents et on les utilise conformément à la parole de Dieu, assaisonnés, vous allez vous souvenir, de l'humilité. Enfin, le quatrième fondement, dans le verset 9 à 13, Romains chapitre 12, verset 9 à 13, la nécessité de l'amour chrétien. Donc, quand Dieu, à travers Paul, nous donne ses instructions, il les donne dans le respect de la volonté qu'il a donnée à chacun de nous. On dit le libre arbitre. Libre arbitre. La chose, c'est que l'amour ne peut pas être forcé. Si on veut aimer Dieu, je suis croyant en Jésus-Christ et je veux vivre parce que j'aime Dieu, ben, ça ne peut pas être forcé. Vous devez vous engager de votre gré. Dieu nous demande de nous engager dans la vérité. Bon, à savoir, il est impossible de réussir votre vie chrétienne sans bâtir sur les quatre fondements que je viens de vous décrire. Car c'est le chemin de Jésus. Jésus est la porte et Jésus est le chemin, n'est-ce pas? Eh bien, son chemin, c'est ce chemin que je viens de vous décrire. Alors, les enseignements sont présentés sous forme d'exhortation. Donc, vous allez voir, quand vous lisez dans votre Bible, c'est écrit comme commandement, les versets qu'on va lire. Mais dans le grec, ce n'est pas les commandements, c'est les exhortations. Okay? Donc, la responsabilité d'agir, eh bien, ça revient à vous. À chacun de nous, nous devons réagir à la volonté de Dieu pour dire « Oui, je veux faire comme ça. » Et c'est ça que Dieu veut de nous. Mais il ne nous force pas à le faire. Mais si on veut réussir dans la vie chrétienne, ben, il faut le faire. Okay? Donc aujourd'hui, on va approfondir le sujet de l'amour chrétien. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, que j'ai lu tout à l'heure, nous lisons ce qui est l'amour et ce qui n'est pas l'amour. Ici, dans Romains chapitre 12, verset 9 à 13, nous apprenons ce que fait l'amour chrétien, la mise en pratique de l'agapé. Donc, je veux noter, juste un petit à côté, bien que ces enseignements s'adressent en premier lieu aux chrétiens, concernant les chrétiens, donc moi envers les autres chrétiens, eh bien, ça s'applique aussi aux chrétiens envers les autres gens, même les non-chrétiens. Hein? On doit même aimer notre ennemi, et non pas simplement nos frères en Christ. OK? Donc, dans les quelques versets avant chapitre 12, verset 9, Paul avait parlé de l'importance de pratiquer, et je veux dire énergétiquement, nos dons en conformité avec la parole de Dieu. Donc, selon l'analogie de la foi. C'est ça l'expression. Et bien, maintenant, Paul revient sur l'humilité du verset 3. Et il parle de l'amour qui doit régner parmi nous. Car, selon 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1, 2 et 3, la mise en œuvre de nos dons et nos talents ne vaut absolument rien s'il n'y a pas de l'amour. D'abord, Paul insiste que l'amour doit être sincère et séparé du mal. Puis, en succession rapide, il présente 8 principes concernant la pratique de l'amour. Il commence dans le verset 9 en disant que l'amour a en horreur ce qui fait du mal à l'autre et s'attache fortement au bien. Par la suite, jusqu'au verset 13, Paul continue sa liste de principes. Tous les principes sont liés, ou, si vous voulez, subordonnés, à l'idée « attachez-vous fortement ».« Attachez-vous fortement ». Donc, dans le grec, ce sont, pour la plupart, des tout petites expressions de 3 mots. Il y a un nom et
un participe. Hein, avec l'article. L'article, le nom est le participe. Donc, il y a le principe et une qualification. Donc, je vais vous lire la liste des principes sans parler des qualifications. Donc, c'est simplement la liste qui est subordonnée à cette idée « attachez-vous fortement ». Ok, et je utilise, pour le moment, j'utilise la traduction « collez-vous », hein, étant collé. Ok, l'amour est sincère, fuyant le mal, se collant, parce que je mets les participes là où il y a les participes, d'accord. L'amour est sincère, fuyant le mal, se collant au bien, se collant à l'amour fraternel, se collant à l'honneur, se collant à l'enthousiasme, se collant à l'Esprit Saint, se collant au Seigneur Jésus, se collant à l'espoir éternel et se collant aux besoins pressants des saints. Ça, c'est la liste. Okay? C'est un peu difficile de voir cette liste quand vous lisez dans votre Bible parce que, en fait, dans les traductions, typiquement, on a mis le participe avant le nom au lieu de mettre dans l'autre direction. Donc, on va lire. Romains chapitre 12, versets 9 à 13. Comme dans vos traductions, hein, je le lis là dans les traductions. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Donc je m'arrête au verset 13 parce que après le verset 13, il commence à utiliser encore les verbes. Il commence à parler directement au lecteur. Mais ici, jusqu'à là, il utilise les participes. Donc, je vais insister que, bien qu'on voit les commandes, les commandements, dans notre traduction, ce sont des recommandations très fortes, mais pas les commandements. C'est comme vous avez le choix, un peu comme ça, vous avez le choix d'aller par là ou par là, mais en fin de compte, vous arrivez à votre destination, on vous dit allez par là. Mais dans la Bible, il n'y a pas les deux routes, il y a la bonne route et les mauvaises routes. Donc il dit, voilà, je vous recommande cela, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Okay? Donc voilà, si vous voulez réussir la vie chrétienne, passez par là. On va regarder de plus près toutes ces idées. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, ça veut dire que l'amour soit sincère. Okay? Dans la pratique de nos fonctions, au milieu des frères et sœurs, que votre amour soit transparent, honnête, franc. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Donc, le mal ici, c'est pas le mal en tant que principe moral, c'est ce qui fait du mal aux autres, de blesser les autres physiquement, émotionnellement, économiquement, etc. Donc le chrétien n'a jamais le droit à faire du mal à quelqu'un. Jamais la Bible nous dit, ah, allez faire du mal à quelqu'un. Au lieu de, il dit au contraire. Ayez le mal en horreur. Fuyez le mal. Le Tobe dit, fuyez le mal avec horreur. Et donc, ça veut dire détester ou haïssez le mal. Attachez-vous fortement au bien. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette expression, attachez-vous fortement, c'est la pensée en dessous duquel sera soumis tout le reste de cette liste. Attachez-vous fortement au haut, etc. Alors ce mot-là, c'est un seul mot en grec. C'est pas toute une expression, c'est un mot. Okay? Et ce mot-là, ça se prononce coller. C'est l'origine de Vienne, notre mot coller. Il est passé par le latin, quand même, mais c'est toujours les mêmes lettres que le grec coller. Donc notre mot coller vient de ce mot grec. Et l'idée, c'est coller ensemble deux ou plusieurs choses. Je veux dire, le mot grec veut dire ça. Okay? Ce mot se traduit par s'attacher à, donc attachez-vous fortement au bien, donc, c'est là, ça se traduit comme ça, c'est le mot coller, attachez-vous fortement. Ça peut dire se joindre à, ou se lier à, ou s'unir à, ça peut dire tenir compagnie. Tout à l'heure, je vais utiliser cette signification-là quand je parle du Saint-Esprit. OK? Tenir compagnie. Et ça peut dire aussi adhérer à. Donc, l'amour n'est pas seul ni inactif. C'est ça la chose. On ne peut pas exprimer l'amour envers les autres si on est tout seul ou inactif. Ça ne marche pas. Parce que l'amour est actif envers les autres. L'amour s'exprime par les actions de bienfaisance. Donc, il dit dans le verset, comme on est en train de lire, fin du verset 9, « Attachez-vous fortement au bien. » Alors, comme vous savez, le bien, c'est Dieu. Dieu est le bien. C'est lui le point de référence. Notre amour les uns les autres doit être attaché, collé au bien, c'est-à-dire au caractère de Dieu. Dieu est amour et l'amour est de Dieu. Dieu est la source de l'amour. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'amour est actif. L'amour se manifeste. Dieu a manifesté son amour envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils, etc. Okay? L'amour agit. Verset 10. Par amour fraternel, Philadelphia. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc, cette expression, plein d'affection, ce mot-là, cette expression-là, plein d'affection, vient d'un mot qui veut dire les affections familiales. Et puis, les uns pour les autres, c'est le mot mutuel ou réciproque. Donc, il ne parle pas d'une compétition entre frères. Hein? Il parle des soins et attentions qui existent normalement entre les parents et les enfants. Quand on parle de l'amour fraternel, on parle d'un amour familial. Le respect, les soins, les attentions, comme si c'était notre famille. Parce que c'est une famille, l'Église. Dans Romains chapitre 12, versets 3 à 8, Paul venait de décrire la relation entre les chrétiens comme un corps. Par cette image du corps, il a souligné l'unité et l'utilité commune. Ailleurs, dans 2 Corinthiens, dans Paul, et aussi dans 1 Pierre, donc Pierre, décrit l'Église comme un temple. Et avec l'image du temple, on fait ressortir l'importance de la sainteté chez tous les chrétiens. Dieu veut que les chrétiens soient sans péché. Ça ne veut pas dire qu'on est sans péché, mais c'est la volonté de Dieu, quand même. Maintenant, il décrit la relation entre les chrétiens comme une famille. Et donc, il fait ressortir l'importance de la bonté mutuelle, quand il parle de la famille. La suite dans ce verset, par honneur, usez de prévenance. Donc, honneur, c'est une valorisation, l'estime, la dignité. Et prévenance, c'est déférence. On se défait, on élève l'autre au lieu de vouloir toujours avoir sa propre volonté. Donc, il dit ici dans ce verset, l'amour se manifeste par le fait de donner la préférence aux autres dans le but de les valoriser. Donc, dans le christianisme biblique, il n'y a pas de place pour critiquer, pour détruire les uns et les autres. On voit ça trop souvent. dans les églises, on devient très familier. Voilà, c'est une église, et puis on commence à chamailler comme les frères. Eh bien, on ne devrait pas faire ça. Et puis on critique, etc., et puis on essaie de détruire. Là, ça ne devrait pas exister dans l'église. On doit essayer de valoriser les uns les autres. Cette idée, c'est l'idée d'être conscient des désirs et besoins des autres personnes. Donc, en s'aimant les uns les autres, les chrétiens montrent de la déférence, de la considération les uns pour les autres. Ils reconnaissent la dignité des uns des autres. Par exemple, donc c'est dans le monde, mais c'est un exemple. Un jeune assis dans le bus va faire honneur à une personne âgée ou à une personne handicapée ou une dame enceinte ou à un blessé de guerre quand il cède son siège. Quand j'étais au début en France, si je prenais le bus, c'était même marqué dans les vitres, céder la place à cette liste-là. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est normal. Hein? Donc, ceci montre du respect pour l'autre personne, plaçant leur confort ou leurs besoins au-dessus de ses propres intérêts, de ses propres conforts. Selon le principe d'honorer les frères et les sœurs, un chrétien ne propagera jamais des bruits qui pourraient déprécier une autre personne, que ce soit un frère en Christ ou un voisin, etc. Il faut dire qu'agir honorablement n'est pas toujours le plus facile. Okay? Donc j'ai créé un exemple n'importe, mais imaginons quand même, celui qui voit tomber le portefeuille d'une personne, il sera tenté de ramasser le portefeuille pour son propre bénéfice, n'est-ce pas? Ce n'est pas honorable. Mais ce sera honorable de le signaler à la personne qui l'a laissé tomber, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas toujours facile d'agir honorablement, mais il faut le faire. Nous, on doit être honorables. On pratique l'honneur les uns envers les autres. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc, ce mot paresse est instructif. Notre amour ne doit pas être timide, inactif, paresseux, hésitant. C'est ça ce mot-là. Okay? Notre amour ne doit pas être timide, inactif, paresseux, hésitant. Malheureusement, beaucoup de chrétiens dans le christianisme sont connus sous ces traits-là. Alors qu'ils devraient être connus par leur enthousiasme, ou, comme le mot est là, par leur zèle. Or, il y a deux mots pour zèle dans le grec. Okay? Le premier mot, et on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, le premier mot invoque la recherche de la qualité, de l'excellence et de la bonne réputation. Ça, c'est le premier mot. Mais ce n'est pas ce mot ici. Ici, Paul utilise un autre mot qui invoque plutôt le fait d'être diligent, la rapidité, la hâte, le sérieux, l'enthousiasme et même la prévoyance. L'idée, c'est que le chrétien ne doit pas rester en arrière quand c'est le moment d'agir. Il agit sans hésitation, rapidement, avec sérieux et enthousiasme. Notre amour, les uns pour les autres, doit être spontané, enthousiaste, sérieux. Nous devons aimer en premier et poser des questions par la suite. Il vaut mieux s'être trompé et avoir aidé quelqu'un quand cela n'était pas vraiment nécessaire que de s'abstenir d'aider quelqu'un quand c'était urgent. Par ce zèle, le mot dans votre Bible, c'est le mot zèle, par ce zèle, l'amour pousse le chrétien à être participant plutôt que observateur. Soyez fervent d'esprit. Ce mot fervent signifie faire bouillir, être chaud, brûler. OK? Donc, ça c'est le mot fervent esprit. Le mot esprit fait référence, donc c'est pas clair, soit à l'esprit humain, soit à l'esprit de Dieu. Personnellement, je pense dans le contexte qu'on devait voir l'esprit de Dieu. Et dans ce cas, l'amour chrétien cherche la compagnie. Vous voyez, dans la liste tout à l'heure, j'ai dit le mot coller peut se traduire cherche la compagnie du Saint-Esprit. Nous devons nous attacher fermement à l'Esprit. Jésus a donné le Consolateur à chaque croyant. Et cela pour l'éternité. Nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le point, c'est que l'énergie pour tout ce travail vient de Jésus. C'est lui qui est la source. Mais il faut quand même faire notre travail. Parce que le joug, c'est deux et pas un. OK? Donc, on a quelque chose à faire et on le fait avec Dieu. Autrement dit, nous devons bâtir notre vie chrétienne sur les Écritures que l'Esprit a inspirées. La Bible nous dit, donc je dis simplement en globalité, il faut marcher selon l'Esprit. Il faut se munir de toutes les armes de Dieu. Et puis, il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit qui agit en vous. Quand nous sommes fortement attachés à l'Esprit, nous savons comment aimer les uns les autres avec un amour fervent. Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Toujours dans verset 11, servez le Seigneur. Nous marchons selon l'Esprit sur le chemin de Jésus. Ceci demande une bonne connaissance des Écritures. Si on ne connaît pas les Écritures, on ne peut pas connaître comment vivre en tant que chrétien. Dans Jean 14, trois fois, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà comment être un bon chrétien. Puis, au négatif, Jésus dit dans Jean 14, 24, il dit, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. » Et là, ça serait triste si un chrétien ne voulait pas obéir à Jésus. C'est par la parole de Dieu que nous saurons, et ce mot « servir le Seigneur », donc c'est le mot « servir ». C'est par la parole de Dieu que nous saurons servir Jésus, que nous saurons obéir, c'est le même mot, à notre maître, que nous saurons être soumis ou dévoués. Ce sont encore les traductions de ce mot. Et donc, nous serons les véritables disciples du Seigneur Jésus. Oui, par l'amour, le chrétien sera bien attaché au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons donc que l'amour chrétien, pour les chrétiens, est droitement lié à l'amour chrétien envers notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'aimons pas Jésus en tant que chrétien, on ne va pas aimer les chrétiens. Il y a un problème là. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Donc ce mot affliction, c'est persécution, affliction, détresse, tribulation, angoisse, trouble. Ça a beaucoup de signification. C'est toutes les difficultés diverses que nous pouvons expérimenter. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans vos difficultés. Okay? Votre amour pour le Seigneur se manifeste quand vous vous attachez fortement à l'espoir. L'espoir, donc l'espoir éternel, au-delà de cette vie. L'espoir qui est en Jésus-Christ. Vous pouvez vous réjouir dans l'esprit, étant patient dans vos afflictions, à travers vos difficultés, et persévérant dans vos prières. Donc ça me rappelle de Matthieu chapitre 5, donc je ne vais pas tout lire, mais j'ai soulevé un verset, Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors après avoir entendu les paroles de Jésus, et on lit la phrase encore, réjouissez-vous en espérant, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il parle le même sujet. C'est par la foi que le chrétien va garder ses yeux fixés sur l'objectif éternel en dépit des difficultés actuelles. Car dans Actes chapitre 14, Paul dit qu'il y a souvent des difficultés. Par la persévérance dans la prière, le chrétien va remettre ses circonstances et son avenir entre les mains du Seigneur. Et on lit ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 18 et 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Et enfin, le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Donc, ce mot pourvoyer, à la base, ce mot veut dire avoir une part de quelque chose. Donc, c'est l'idée, traduction, partager, communiquer, contribuer, distribuer, être participant. OK? Au besoin, c'est ce qui manque, c'est les nécessités. Et les saints, c'est les frères et sœurs. Ce n'est pas les gens qui sont mieux que nous, qui flottent là au ciel quelque part. C'est vous, hein? C'est les frères et sœurs en Christ. Les raisons derrière ces besoins ne sont pas spécifiées. Chômage, maladie, décès, persécution, etc. Les raisons, ce n'est pas donné. Qu'importe, le frère ou la sœur est dans le besoin. Donc, l'amour s'attache à ses besoins dans le désir d'aider. Nous lisons la même chose à travers l'épître de Jacques. En particulier dans Jacques chapitre 1, verset 27, et chapitre 2, verset 16, quand il parle des veuves, des orphelins, et l'inutilité du mot s'il n'y a pas d'action. Donc, dans le verset 12, Paul a dit que l'amour se manifeste par l'espoir qui est en nous en dépit de nos souffrances. La suite logique, c'est que ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont persécutés, ont des besoins. Donc, notre amour va s'attacher aux besoins pressants des saints. Que va-t-on faire par amour? Le chrétien va partager avec ceux qui sont dans le besoin. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui a deux manteaux devrait en donner un à celui qui n'en a pas? Et les premiers chrétiens, comme Barnabas, n'ont-ils pas vendu leur propriété ou leur propriété secondaire et partagé les bénéfices parmi les frères et sœurs qui se trouvaient dans le besoin? Bien sûr. C'est ainsi que l'amour se manifeste par l'attachement à l'hospitalité. Verset 13, exercer l'hospitalité. Le mot hospitalité, c'est le mot... L'amour des étrangers. L'amour des étrangers. Jésus a dit que les deux plus grands commandements sont aimer Dieu avec tout notre être, Exode chapitre 20, et aimer ton prochain comme toi-même, dans Lévitique chapitre 19. Et aussi dans Lévitique 19, verset 34, le Seigneur commandait, vous aimerez l'étranger comme vous-même. Donc Jésus a illustré ce point avec la parabole du bon samaritain. Dans cette histoire, un juif est agressé par les brigands, des gens religieux et des concitoyens passent outre, mais un samaritain, c'est-à-dire un étranger, il est venu à son secours. Il a amené dans un gîte, il a soigné, il a payé la facture de son séjour. Donc on voit que le Samaritain a exercé l'hospitalité envers cet étranger juif. Il a pourvu pour ses besoins pressants. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot grec pour hospitalité, se compose de ces deux mots, aimer et l'étranger, ce qui donne l'amour des étrangers. Donc, soit l'amour étranger ou l'hospitalité. L'étranger est toute personne qui ne fait pas partie de votre foyer, ou de votre village, ou votre ville, votre pays, votre entourage. OK? Nous voyons ce principe dans la Genèse quand Lot a reçu les deux visiteurs et quand Abraham a reçu les trois visiteurs. La pratique de l'amour par le biais de l'hospitalité a une très longue histoire dans la Bible. Frères et sœurs, l'amour est intentionnel. C'est un choix exprès. L'amour se manifeste exprès par le bien, par l'amour fraternel, par l'honneur mutuel, par l'enthousiasme. L'amour se manifeste par le choix de vivre dans l'esprit, sous les ordres du Seigneur Jésus-Christ, par l'assurance que donne l'espoir à travers les difficultés exprimées par la persévérance dans la prière. Enfin, l'amour se manifeste par la participation intentionnelle aux besoins pressants des frères et sœurs, en particulier ceux qui fuient la persécution. Parce qu'on peut aussi traduire cette phrase comme ça, ceux qui sont en fuite. Donc, je voudrais vous demander aujourd'hui de vous engager dans votre esprit, dans votre être, dans la prière pour notre assemblée, pour notre Église. Et en particulier, de vous engager vous-même envers le bien, envers l'amour fraternel et envers l'enthousiasme. On a besoin de ce zèle-là. Okay?